Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Coopérative d'épargne et de crédit, que faire pour ne pas être victime de l'escroquerie? Parce qu'il y a beaucoup de cas d'escroquerie dans ces secteurs-là. Monsieur Al Kitenga, analyste économique, sera notre invité tout à l'heure. Et nous allons également accueillir Monsieur Emmanuel Mukundi, professeur d'économie et député élu des Nyuzu, pour participer à cette émission. Appelez au 081-893-94 et qui vient nous également à service@radiokapi.net. Dieudonné Nyangasa, à la mise en onde, Benit Lomeka assure la réalisation de cette émission que supervise Jean-Marc Matouaki, Jody Daniel Keshama au micro. Bienvenue à tous.
Chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Capi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Capi Service. Pour participer à cette émission, appelez au 081 89 063 94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Okapi Service.
Bien, nous parlons à présent des coopératives d'épargne et de crédit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être victime de l'escroquerie? Vous savez, les cas d'escroquerie sont fréquents dans le secteur des coopératives d'épargne et de crédit. Par exemple, à Bandundu, dernièrement à Bandunduville, le responsable d'une coopérative avait dernièrement disparu avec l'argent des plus de 1000 épargnants. Il a été appréhendé le 8 mai dernier par la police dans la ville de Kenge. Sa coopérative d'épargne et de crédit, appelée la Grâce Divine Luzingu, est implantée à Bandundu, ville depuis plus d'une année. Il s'agit là d'une troisième fois que l'argent des épargnants est emporté par les coopératives dans le chef-lieu de la province en moins de 3 ans. Quelles sont les conditions d'octroi des autorisations d'ouverture de ces entreprises? Qu'est-ce que l'épargnant doit savoir avant de s'engager auprès des institutions d'épargne et de crédit? Parce qu'il y a beaucoup de cas d'escroquerie dans ces secteurs-là. Eh bien, nous allons en savoir plus avec nos invités. Monsieur Al Kitenge est analyste économique. Et puis, nous allons également accueillir Emmanuel Mukundi, qui est professeur d'économie, élu député des Nyuzu. Nous aurons nos invités tout à l'heure en ligne. Des questions et préoccupations, appelez déjà au 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net.
Radio Okapi.
À Kalemi.
Okapi.
Sur 105 FM.
Okapi.
Bien, nous allons, avant d'accueillir notre invité Al Kitenge, un auditeur est déjà en ligne, Daniel depuis Lubumbashi. Bonjour.
Ah, bonjour Monsieur Tati, bonjour à tous les auditeurs qui sont tentés de nous suivre à ce net moment. Je suis en tout cas ravi de joie d'avoir écouté cette thématique trop pertinente. Comme nous parlons de l'épargne, moi aussi je voulais vous parler parce qu'on met le crédit à l'air tellement, par exemple, à l'impressa. Je suis victime de Vodacom et le Vodacom m'a pris $500. Pourquoi?
Parce que... Bon, aujourd'hui on ne parle pas de cela, on parle plutôt des coopératives d'épargne, les gens qui vont mettre leur argent dans ces structures et après vous apprenez que le responsable a disparu avec toute la caisse et puis les gens sont désemparés. Est-ce qu'à Lubumbashi il y a déjà eu aussi des cas pareils?
Bon, je vous parle de mon cas personnel, je ne parle pas d'autres, mais si cela s'est fait, c'est de l'escroquerie, c'est un peu pire. Le gouvernement pourrait être responsable de structurer, d'envoyer les gens pour arranger les choses. Donc, ça ne peut pas avoir une coopérative, une coopérative ne peut pas exister sans que l'État y sache, vous voyez. Il faut que l'État prenne ses responsabilités, parce qu'il y a beaucoup de voleurs, il y a beaucoup de voleurs. Nous voyons aujourd'hui au téléphone, il y a des investissements, on nous écrit, si tu investis $50, vous aurez $500, et si tu investis, si c'est $500, vous aurez $5,000, $10,000. Vous voyez, tous ces gens-là, ce sont des escrocs. Alors, l'État voit ces gens. Il faut les interpeller. Il faut les réglementer, tous ces gens-là. En tout cas, c'est un peu ça que je voulais ajouter. C'était ça ma préoccupation.
D'accord, merci. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Julien Daniel Kachara. Bonjour à tous nos amis et auditeurs de la radio.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'escroquerie dans les cas des coopératives d'épargne et des crédits?
Il y a une étude d'inquiétude et des soucis. Parce que ici à Lubumbashi, comme un témoignage, il y a 2 ans environ, ont beaucoup pleurnifié et d'autres parce qu'il y avait ceux qui marchaient avec les carnets et vous donnez votre argent par jour. Eh bien, si vous avez besoin de cet argent-là, tu peux le récupérer. Les autres sont ceux qui épargnaient en ligne. Ils pouvaient, on leur supposait avoir autant. D'autres disaient, bon, au lieu de payer même un véhicule, c'est inutile que d'épargner dans cette banque-là, les comptes en ligne. Mais un jour que c'est des comptes en ligne, ils étaient partis de Lubumbashi, c'est le matin, on demande dans mon compte, il y a combien? Oh, ça ne répond pas. On cherche les conseillers juridiques, il est parti. Et c'est puis cotisé par jour. Et le matin, le bureau était fermé, tout était compliqué là, il y a que 2 ans ici à Lubumbashi. Mais vous imaginez qu'il y a un conseiller juridique, c'est quelqu'un qui est bien connu. Parce que je suis dans une famille où il y a beaucoup des avocats et consorts là. Je pense qu'ils sont même au barreau, partout. Je connais quand même les processus. Mais comment ça fait-il que quand ces gens-là prennent cet argent-là, parce que vous avez votre nom GD, il a fallu qu'il y ait une autorisation des autorités local, je pense, c'est ça. J'ai bien dit, je pense. Eh bien, après cela, il y a aussi, quand vous fondez votre ONG, il a fallu que vous ayez un arrêté. Cet arrêté est signé par le ministre de l'Intérieur, qui a toute connaissance pour tout ce qui se passe dans le pays. Mais ma première question, ma première préoccupation, c'est de savoir comment une chose qui se passe officiellement, avec un arrêté, avec tout contrôle assidu, parvient à escroquer les gens et que ces gens-là restent en train de pleurnicher et les conseillers juridiques, parce que quand on parle aux banques, nous avons été beaucoup de choses qu'on fait là à la banque, donc vous laissez votre adresse et tout ça, tout ça. Et ces gens-là partent un peu à une destination inconnue.
D'accord.
Et les personnes ne parviennent pas à reçu quelque chose là.
D'accord.
Mais, la deuxième préoccupation, c'est de savoir comment certaines aussi organisations les font avec équité et que les gens ne pleurnichent pas. N'y a-t-il pas une complicité avec les autorités et les clients en soi? C'est ça ma préoccupation. Merci beaucoup.
Merci à vous. Monsieur Al Kitenge, bonjour.
Bonjour, Jody.
Vous êtes analyste économique. Nous parlons aujourd'hui des coopératives d'épargne et des crédits. Beaucoup de personnes sont victimes de l'escroquerie. C'est comme le dernier cas qui s'est passé à Bandundouville, où le responsable d'une coopérative a disparu avec l'argent des plus de 1000 épargnants, mais il a été arrêté, appréhendé dernièrement dans la ville de Kenge. Alors, qu'est-ce qu'on entend d'abord par une coopérative d'épargne et des crédits?
Merci beaucoup, Jody. La première des choses qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que c'est une coopérative, ça veut dire...
Allô, monsieur Alain?
Première erreur que commettent beaucoup de gens, ils considèrent finalement à un moment donné que la coopérative appartient à celui qui l'a éventuellement initiée, c'est une faute. Et du coup, on lui laisse trop de liberté, y compris dans la manière de opérer au quotidien. Normalement, une coopérative d'épargne et de crédit fait les deux fonctions, c'est ce qu'on appelle une coopérative de niveau 2. Ça sous-entend qu'en fait, elle a l'autorisation de la banque centrale d'opérer en tant que collecteur d'épargne, mais également émetteur de crédit. Et ça, c'est fortement réglementé, et il y a tout un tas de dispositifs qui protègent à la fois les épargnants et l'activité en tant que telle. La première des choses qu'il faut vérifier, c'est si effectivement cette coopérative était en règle avec la Banque centrale et qu'elle était connue. Si elle ne l'était pas, c'est simplement, j'ai envie de dire, l'expression de la précarité de l'État quand on quitte Kinshasa et qu'on arrive dans les provinces et quand on arrive on quitte les chefs-lieux pour aller vers les territoires et l'État se dilue progressivement. Et moi, je dis, si vous me répondez à la question de savoir si cette entité était effectivement connue de la Banque centrale et qu'elle était contrôlée, la deuxième des choses que je dirais, c'est que avait-elle un système de gestion informatique connu? Comment faisait-elle ses rapports? Qui contrôlait? Quels sont les organes qui contrôlaient l'effectivité des opérations de cette coopérative de crédit et d'épargne?
Voilà, autant des questions que l'on se pose. On va accueillir le professeur Emmanuel Mukundi, il est professeur d'économie, député élu de Nyunzu. Professeur Emmanuel, bonjour.
Bonjour, merci.
Alors, on se pose la question de savoir quelles sont les conditions d'octroi des autorisations d'ouverture à des coopératives d'épargne et des crédits. Comment ça se passe? Parce que généralement, après, il y a toujours des soucis, il y a des cas d'escroquerie, les responsables qui disparaissent avec l'argent des épargnants.
Ok, merci beaucoup pour votre question, mais je voudrais quand même, parce que votre mission a été toujours pédagogique, essayez un peu de donner un cadre pour que tout le monde comprenne qu'est-ce qu'une coopérative. Généralement, on se plonge dans une chose alors qu'on ne sait pas de quoi il s'agit, et puis c'est lorsqu'il y a des conséquences négatives que l'on crie maintenant vers la radio, vers l'État et vers les autres choses. D'avance, merci pour m'avoir associé à ce débat, citoyen, pour le bien-être de notre population. Une coopérative, c'est une institution financière dont le rôle principal, c'est collecter l'épargne, les dépôts du public et en octroyer les crédits. Mais ça dépend de chaque législation, parce que le mot institution financière, elle est lourde, elle est grande, englobante. C'est la raison pour laquelle chaque législation, chaque pays légifère en sa manière. Et chez nous, ici chez nous, la loi 002 de 2002 qui régit ces secteurs-là, des coopératives d'épargne et des crédits, prévoit que cette catégorie d'institutions financières fasse partie des établissements de crédit. Et là, je vais rappeler, selon la loi maintenant 003 qui organise les établissements de crédit jusqu'à présent, parce qu'au niveau du Parlement, on est tenté de changer cette loi, nous avons 5 familles d'établissements de crédit. Nous avons les banques, comme le voyons en ville, nous avons les coopératives d'épargne, nous avons les institutions financières spécialisées, comme par exemple les FPI et les autres, nous avons les sociétés financières, et enfin, nous avons les coopératives d'épargne et de crédit. Ça fait partie des catégories des établissements de crédit qui sont contrôlés par la Banque centrale. Ces établissements de crédit sont contrôlés par la Banque centrale, ça je le dis. Et aussi, quel est le modus operandi de cette catégorie d'établissements de crédit? Les coopératives d'épargne et de crédit ont une personnalité morale. Et pour obtenir cette personnalité morale-là, il faut avoir été agréé par la Banque centrale. Et je vous donnerai les conditions comme vous m'avez dit. Donc c'est la Banque centrale qui est l'autorité de contrôle, de supervision et de régulation. Donc c'est elle qui accorde cette personnalité morale en accordant l'agrément à une institution comme celle-là. Alors, cette personnalité morale est constituée soit au minimum de 20 personnes physiques, soit au minimum de 2 personnes morales. Et là, ça dépend maintenant des catégories de coopératives d'épargne et de crédit. Pour une coopérative d'épargne et de crédit simple, donc on peut avoir 20 personnes dans un village qui se réunissent, ils constituent leur coopérative d'épargne et de crédit avec les statuts, avec un capital minimum qu'ils vont se faire eux-mêmes, j'en arriverai, et ils déposent leur dossier dûment à la Banque centrale. Et si la Banque centrale contrôle que ces 20 personnes, effectivement, peuvent créer, sont en règle, ils ont les statuts, ils ont un siège, ils ont une dénomination, ils respectent les principes que je vais donner, les principes qu'on respecte pour faire une coopérative d'épargne et de crédit, s'ils respectent ces principes-là, alors c'est seulement à ce moment-là que la Banque centrale accorde l'agrément à un établissement de crédit. Et alors, quelles sont ces conditions-là? Quels sont ces principes? Les coopératives de crédit ne sont pas comme des banques, comme toutes les autres institutions. C'est vrai que toutes les institutions ont comme principe fondamental la collecte des dépôts et l'octroi des crédits. Mais toutes les autres institutions les font avec une motivation, avec un objet précis. L'objet, la motivation pour les autres établissements de crédit, c'est les LICRE, c'est gagner les profits. Par contre, les établissements de crédit qui sont les coopératives d'épargne et de crédit, leur objectif principal, c'est le social. Et le social est basé sur les trois principes. Et la Banque centrale doit contrôler ces trois principes avant même d'octroyer l'agrément. Quels sont ces principes-là? Premièrement, c'est l'union. Ça voudrait dire que ce soit les personnes physiques ou les personnes morales doivent se fonder sur ce principe de l'union. Ce sont des personnes qui se connaissent. On ne peut pas créer la Banque centrale ne peut pas accorder l'agrément pour une coopérative des personnes qui ne se connaissent pas, 20 ou plus de 20 qui ne se connaissent pas. Non, la Banque centrale ne peut le faire que lorsque ces personnes sont en union après avoir vérifié effectivement ces personnes sont en union. Et c'est en ce moment-là que la Banque centrale accorde l'agrément. Deuxième, c'est la solidarité. Donc ces personnes vivent la solidarité, ils ne suivent pas l'intérêt. Ça voudrait dire quoi? Nous collectons le dépôt ou l'épargne de nous membres seulement. Voilà la différence avec les autres établissements de crédit. Donc une coopérative ne peut collecter l'épargne que de ses propres membres. Si vous êtes membre, on ne peut collecter, vous êtes 20, je m'excuse, on ne peut collecter l'épargne que de 20. Si vous êtes au-delà de 20, on ne peut collecter que l'épargne de ces membres-là qui constituent cette coopérative d'épargne et de crédit. Et ces membres doivent être solidaires. Ça voudrait dire quoi? La solidarité vient dans la collecte des dépôts, mais aussi dans l'octroi des crédits. Un commerçant membre qui ne peut se déplacer, par exemple, de Nyunz ou chez moi jusqu'à Bukavu pour acheter la marchandise, ou à Lubumbashi pour acheter la marchandise, il n'a que 1 000 $. Il peut emprunter au niveau de la coopérative d'épargne un autre 1 000 $ parce qu'il en est membre, il fait partie du capital, et on lui accorde un taux d'intérêt très faible. Si la banque accordait les taux d'intérêt de 12-15%, la coopérative ne peut donner un taux d'intérêt que de 2 ou 3%. Pourquoi ce taux d'intérêt-là? Tout simplement pour permettre à ce que les intérêts qui sortent, le revenu gagné par ces intérêts, permettent l'organisation administrative et l'organisation fonctionnelle de la coopérative. Donc il faut cette solidarité-là. Troisième chose, c'est l'entraide mutuelle. Donc les membres de la coopérative doivent se soutenir mutuellement de sorte que qu'aucun d'eux ne puisse tomber en faillite ou qu'aucun d'eux n'ait de problème. Admettons que c'est une coopérative qui est constituée par les agriculteurs dans un village, on doit les soutenir de sorte que sa production arrive à lui permettre de rembourser le crédit qu'il a pu obtenir grâce à la coopérative d'épargne et de crédit. Voilà, ça ce sont des principes fondamentaux pour qu'une coopérative d'épargne et de crédit puisse exister. Mais je vais insister en disant ceci. D'abord, il faut présenter ses statuts dûment à la Banque centrale, en bref, pour répondre à votre question. En plus, il faut présenter l'objet dans ses statuts. On va montrer l'objet social, comme je l'ai dit, les sièges sociaux, la dénomination et le capital. Aussi, la Banque centrale doit connaître qui sont les membres du conseil d'administration de cette coopérative, qui sont les membres du conseil de surveillance de cette administrative. La Banque centrale doit connaître aussi les membres de la commission des crédits. Parce que dans une coopérative, il faut qu'il y ait une commission des crédits. La Banque centrale doit connaître les gérants de cette coopérative. En ce sens que la Banque centrale a le pouvoir de sanctionner tous ces organes que je viens de citer. Voilà un peu, en grosso modo, comment je peux répondre à votre question.
D'accord, on va accueillir un auditeur des Kikwit. Godet, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité.
Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux coopératives d'épargne et de crédit, les cas? Par exemple, on parle du cas des escroqueries qui a eu lieu dernièrement à Bain-de-Nouville.
Monsieur le journaliste, vraiment, lorsque j'ai su cette émission, nous, de l'église des Saints, nous avons commencé à pleurer. Pourquoi? Laissez-moi vous raconter une histoire qui était passée vers les années 2012 et 2013. Jusqu'alors, nous pleurons. Nous sommes demeurés toujours des locataires à cause des coopératives et d'épargne et de crédit. Vers les années 2012-2013, il y a une coopérative d'épargne et de crédit ici qui s'était à Paris dans la ville de Kikwit au nom de Mikrefeki. vraiment, nous, de l'Assemblée des Saints, de l'Église de l'Assemblée des Saints, nous nous sommes cotisés avec une montant là de 1000 dollars. Nous avons fait plus d'une année. Et les coopératives en question, au nom de Mitefeki, a pris fuite avec cet argent-là jusqu'alors que je vous parle. Nous, nous demeurons toujours locataires. Pas moyen d'aller acquiser chez le parquet ou chez la justice. Nous sommes agenouillés, nos genoux, serment l'Éternel, et l'Éternel leur bénisse encore de plus. Mais nous, nous demeurons, toujours des locataires.
Voilà, votre épargne a été emportée par les responsables de cette coopérative. Quelle est la question que vous adressez aux invités?
Par le microfeki qui est dirigé à Kikwitwa par le pasteur Joël Muyungani. Vraiment, jusqu'alors, nous nous déplorons. Voilà, j'ai des questions à poser à l'invité. Est-ce qu'il n'y a pas une loi? Il n'y a pas une loi de la banque des coopératives au Congo? Deuxième question, quelle différence y a-t-il entre banque centrale et banque des coopératives de d'épargne et de crédit? Voilà, j'arrête par là.
Merci. Merci, monsieur Al Kitenge. À vous la parole.
Je n'ai pas entendu la deuxième question. Il a dit la différence entre...
Entre banque et puis coopérative.
Parfait. Le député tout à l'heure a bien expliqué les conditions qu'il faut pour être en mesure d'ouvrir une coopérative d'épargne de crédit. On dirait mieux de crédit et d'épargne, parce que pour prendre l'épargne, il faut une autorisation supplémentaire. Et encore une fois, ici, il n'y a que la Banque centrale qui peut donner cette autorisation. Tout le drame, c'est que la plupart d'activités pareilles qui arrivent dans certains endroits, personne ne prend la peine de vérifier l'effectivité de la licence bancaire ou de l'institution banque centrale pour être en mesure d'opérer. Et là, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, les faiblesses qu'il y a entre les grandes villes et la capitale et bien sûr les milieux reculés par rapport à l'existence de l'État. Les gouverneurs, les maires, les bourgmestres, des fois, voient des choses, mais leur ignorance leur empêche de pouvoir prendre des actions parce que ça relève de leurs compétences. Et ça, malheureusement, nous avons un État qui, des fois, se limite au boulevard du 30 juin. Il est important qu'au-delà d'administrer l'État, qu'on le gouverne. Et c'est là que je dis tout le temps, heureusement que le chef de l'État a lancé ce programme de 145 territoires, mais il devra aller dans le leadership aussi. Il est important que l'État se décline à tous les niveaux. Ce qui est arrivé à Kikwit et à Bandundouville, c'est des choses qui sont liées à la faiblesse de l'État. Et puis, un individu disparaît, mais il disparaît, il est où? Il est sur la planète Terre, on doit être en mesure de l'identifier et de l'immobiliser. Maintenant, la différence entre une banque et une coopérative d'épargne et de crédit, une coopérative d'épargne et de crédit appartient à ses membres, et le député le disait encore tout à l'heure, ne peuvent faire partie de la capacité d'épargner ou de recevoir un crédit que les gens qui sont membres. Alors que la banque est un exercice plutôt financier qui appartient à une entreprise bien déterminée, qui répond à des normes et qui reçoit, bien entendu, l'épargne de plusieurs personnes, y compris des gens qui ne sont pas du tout actionnaires dans la société, et ils reçoivent également la possibilité de donner des crédits. À côté de ça, les conditions pour y arriver sont différentes aujourd'hui. Pour ouvrir une banque chez nous, il y a un minimum de 30 millions de dollars. C'est très peu d'argent pour être en mesure d'assurer la solidité des banques. On doit passer assez rapidement, j'espère, à 50 et puis à 100 milliards de dollars et peut-être un peu plus pour être en mesure d'avoir des banques solides. Par contre, il existe un instrument internationalement reconnu qui s'appelle le Fonds de garantie de l'épargne. Ça veut dire qu'en fait, chaque fois que vous mettez de l'argent dans une institution d'épargne, de crédit, qu'elle soit une coopérative, une institution de microfinance ou une banque, l'État se porte garant pour que, en cas de problème, il y a un minimum d'argent qui devrait être couvert. Le drame, c'est que chez nous, cette agence de garantie des épargnants n'existe pas du tout, alors qu'elle ne demande même pas un dollar de l'État, ça demande simplement que l'institution soit mise en place parce qu'elle est financée par les épargnants eux-mêmes et par les institutions de financement que sont les coopératives, les IMF et la banque commerciale le cas échéant. Et donc je crois que là-dessus, il faudrait juste qu'on multiplie l'efficacité publique parce que tout compte fait, les institutions financières sont très importantes pour soutenir une activité économique dans un pays et assurer une inclusion aussi bien économique que financière.
Bien, on va accueillir Justin Kalabia depuis Bounia. Bonjour.
Bonjour Monsieur Joly, bonjour à l'invité.
Est-ce que là-bas à Bounia, il y a eu aussi des cas d'escroquerie avec les coopératives d'épargne et de crédit?
Oui, Monsieur Joly, merci beaucoup en tout cas de m'avoir associé dans cette émission. Monsieur Joly, je me souviens en 2012 et 2011, j'étais dans la province du Nord Kivu. Il y avait la coopérative Imara et Baraka Express. En tout cas, monsieur, aujourd'hui, la population congolaise souffre sur tous les plans dans ces pays. Moi, je pense que nous avons un État dans ces pays. Mais l'État ne protège pas, en tout cas, sa population. Pourquoi je le dis? Parce que le cas qui nous est arrivé à cette époque-là, les gens, en tout cas, ont déposé beaucoup de leur argent dans cette caisse d'épargne, de coopérative. Et ces gens, monsieur, aujourd'hui, moi-même, j'avais mon argent et ils se sont volatilisés et ils ont dit que non, ils vont encore revenir. Et jusqu'à présent, en tout cas, aucun audit, aucun contrôle qui s'est passé. Maintenant, je me demande, est-ce que si dans ce pays, il y avait les gens où il y avait un État qui devrait protéger sa population avec ses patrimoines, est-ce que la population devrait accepter que cet escroqué, ou bien l'escroqueur là, les gens qui avaient pris leur argent, qui puissent se volatiliser? Et la deuxième question, monsieur, aujourd'hui, je pense qu'il y a encore toujours nous craignons maintenant d'adhérer même dans de telles coopératives, monsieur, aujourd'hui, de mettre de l'argent dans la caisse. Bon, si quelqu'un qui a l'argent, il peut mettre ça à la banque. En tout cas, après, à part la banque, moi, je n'ai plus confiance. Parce qu'avec même Kadeko, hein, avec Kadeko, c'est une caisse d'épargne du Congo, monsieur, aujourd'hui. Maintenant, nous tous, nous craignons que nous risquerons de subir la même conséquence comme celle de 2012. Et maintenant, est-ce que Kadeko aussi ne sera pas en tout cas, je ne suis pas en train de parler mal de Kadeko, en tout cas les agents de Kadeko doivent me pardonner, mais nous craignons de mettre ou de déposer notre argent, l'argent dans Kadeko, parce que ça risquera d'être comme le cas de 2001, de 2012, monsieur, aujourd'hui. Mais en tout cas, que lorsqu'il y a un groupe de gens qui viennent, soit installer une caisse d'épargne, monsieur, aujourd'hui, l'État doit vérifier, est-ce que ces gens, ce sont des escrocs? Est-ce que quels sont les inconvénients, les désavantages qui seront après?
D'accord,
moi,
merci.
C'est vraiment ma suggestion, monsieur, aujourd'hui. Et bonne journée.
Merci, Justin. Professeur Emmanuel, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon, merci beaucoup. Avant de répondre à la question de Justin, très rapidement, je vais toucher à la question de Godet. En fait, là, est-ce qu'il n'y a pas de loi pour les coopératives? Oui, effectivement, il y a des lois qui régissent les coopératives. Il y a d'abord le cadre général, c'est ce que nous appelons la loi bancaire. La loi qui régit les établissements de crédit au Congo. C'est la loi 003 de 2002. Et il y a une loi spécifique. Il y a une loi spécifique, c'est la loi 002 de 2002, qui régit les coopératives d'épargne et de crédit. Et c'est cette loi qui dispose de choses qui protègent, pour aller à la réponse de Justin, qui protègent, n'est-ce pas, la population contre les genres d'escroquerie. Alors, quel est le problème qui se pose par rapport à l'escroquerie? C'est le fait que, un, comme l'a dit Ali, que je salue en passant, c'est l'incapacité de l'autorité de régulation. Je vous ai dit, notre constitution le dit à l'article 176, accorde à la Banque centrale, n'est-ce pas, ses pouvoirs de supervision du système financier congolais. Alors, si la Banque centrale ne le fait pas, si on arrive à de telles choses, ça voudrait dire que la Banque centrale n'est pas à même de pouvoir contrôler. Si ça peut arriver à Bounia, à Kikwiti, dans le Bandundu, alors que là, il y a des agences de la Banque centrale et il y a des agents de la Banque centrale qui peuvent se rassurer qu'une telle coopérative fonctionne parce qu'elle réunit les conditions que je viens d'évoquer en passant. Autre question pour Godet, c'est la différence entre une banque centrale et une coopérative. En fait, la banque centrale, techniquement, comme les banques des dépôts ou les banques créatrices de monnaie, ce sont des institutions financières monétaires. Ça veut dire, techniquement, il n'y a que les deux qui créent la monnaie, qui fonctionnent dans une économie. La banque centrale crée la monnaie centrale, dans le cas échéant, c'est le franc congolais chez nous, et les banques
les autres banques ou les banques créatrices des monnaies créent la monnaie scripturale, celle qui circule au moyen des chèques, de cartes et ainsi de suite. Alors, tandis que les coopératives, ce sont des institutions financières non monétaires. Elles ne peuvent pas créer la monnaie. Et voilà la raison pour laquelle il faut qu'on les appelle coopératives d'épargne et de crédit. Ça aussi, c'est technique. Pourquoi on les appelle comme ça? On ne peut pas les appeler coopératives de crédit et d'épargne. Non. La ventilation dans leur mouvement du bilan commence par les passifs. C'est-à-dire, il faut d'abord collecter l'épargne. Si vous n'avez pas d'épargne, vous ne pouvez pas octroyer les crédits. Il faut d'abord collecter l'épargne et puis octroyer les crédits à vos membres. Tandis qu'une banque, elle peut octroyer les crédits sans épargne. En ce moment-là, elle crée la monnaie. C'est un mécanisme un peu plus technique qu'on ne peut pas étaler ici. Donc, je suis d'accord avec Kitenge qui parle de l'inefficacité de l'autorité des contrôles. Alors, une autre chose, c'est la question de la confiance. Je rentre sur Justin. Effectivement, la gestion de la monnaie, parce que je n'ai pas eu le temps de le dire, toutes les institutions financières ont trois fonctions. La collecte de l'épargne, l'octroi des crédits, et en plus, il y a les opérations des paiements et des gestions de moyens de paiement. Cette opération, la dernière donc, est née octroyée à d'autres établissements de crédit par la Banque centrale à titre provisoire ou s'il y a un besoin qui s'impose au sein de l'économie. Donc la gestion de la monnaie elle-même, implique d'abord la confiance. Si on n'a pas confiance, il ne faut pas s'hasarder d'y aller. Pour garder cette confiance, voilà pourquoi les législateurs, les parlementaires donc, a prévu que ne peuvent créer une coopérative d'épargne et de crédit que des personnes qui ont confiance entre elles. Il ne faut pas entrer dans une histoire de quelqu'un pour qui vous n'avez pas confiance. Vous êtes dans un même village parce que le législateur a voulu que les activités financières vont juste dans les villages. Vous êtes dans un village, vous êtes à 20 commerçants, réunissez-vous, vous 20 commerçants ou 30 commerçants, créez votre coopérative en vous octroyant les crédits en collectant le fonds entre vous. Donc il ne faut pas le faire avec les autres et prendre quelqu'un qui vient de Kinshasa, quelqu'un qui vient de l'Europe parce qu'il parle bien français, il vous trompe et il vous embarque dans des choses telles que je connais moi aussi l'histoire de la coopérative Imara parce que ce sont des choses que j'ai enseignées à l'université et je donne comme exemple et Baraka, je connais cette histoire et même une autre coopérative, si c'est Pré-Coco, je crois, j'ai oublié le nom tout à l'heure là. Alors aussi, on ne peut pas faire la confusion entre la CADECO et les coopératives d'épargne et de crédit. Je l'ai dit quand, dans mon introduction, que nous avons 5 familles dans les établissements de crédit. La CADECO fait partie de ce qu'on appelle les coopératives d'épargne. Les coopératives d'épargne, non, les caisses d'épargne, voulais-je dire, les caisses d'épargne. Les caisses d'épargne, elles, collectent les fonds du public. Et à ce moment-là, le contrôle de la Banque centrale est encore très fort parce que les caisses d'épargne, comme la CADECO, a un grand champ d'activité. Par contre, une coopérative d'épargne et crédit, dans votre demande d'agrément, vous devez définir le champ d'activité. Ça peut être un village, ça peut être un territoire, ça peut être une province, mais ça ne peut pas être sur toute la nation, non, à moins que ça soit une fédération des coopératives. Là, oui. Parce que dans une fédération des coopératives, vous avez plusieurs coopératives qui se mettent ensemble, qui forment ce qu'on appelle les coopératives centrales d'épargne et de crédit, et 2 ou 7 coopératives d'épargne centrale d'épargne et de crédit peuvent se réunir pour faire une fédération. Là, elle peut être jusqu'au niveau national. Voilà la différence. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas manquer de la confiance à la CADECO. Il y a plus de contrôle à la CADECO que dans une caisse d'épargne, que dans une coopérative d'épargne et de crédit. Voilà.
Bien. Alors, Al Kitenge, vous êtes analyste économique. Qu'est-ce que l'épargnant doit savoir avant de s'engager, avant d'aller déposer son argent auprès d'une coopérative d'épargne et de crédit?
Merci beaucoup. J'aimerais faire un petit commentaire par rapport à la CADECO. Il faut dire que malgré tout ce que le professeur a dit, la CADECO est dans une situation de précarité très avancée. Et c'est dommage que l'État ne prenne pas les dispositions nécessaires pour la remettre non seulement en état de viabilité, pour qu'elle soit en mesure de rendre les services qu'il faut et qu'elle couvre l'étendue de la République et qu'elle ne laisse pas trop d'espace aux aventuriers, justement. Et si moi, j'avais une proposition à faire, serait que l'État devrait pouvoir s'appuyer sur les églises, et il y en a beaucoup, où la confiance, comme le dit le professeur tout à l'heure, est établie pour être en mesure de les former et d'en faire des entités capables de devenir des coopératives réelles d'épargne et de crédit. Et je pense que cette réalité sociale pourrait servir à créer un flux financier important pour être en mesure d'être la base d'une banque à capitaux congolais. Mais ceci dit, pour mettre de l'argent, pour mettre son argent dans une institution qui fait des promesses de sagesse en termes de tenue, il faut avoir d'abord l'assurance que la gouvernance de cette institution est correcte. Une des caractéristiques principales d'une gouvernance, c'est la transparence. Et en ce qui concerne une coopérative d'épargne et de crédit, c'est la transparence totale vis-à-vis des opérations qui s'y passent et éventuellement les différentes institutions de gouvernance. En l'occurrence, ça peut être un conseil d'administration et le comité de gestion et le comité de surveillance, mais également la capacité à accéder à l'information. Maintenant, je voudrais revenir sur quelque chose de très important. Il faut que l'État se décline de manière fondamentalement solide et efficace sur toute l'étendue de la République. C'est la seule chose qui va permettre que ces différents organes, y compris la Banque centrale, soient effectifs. Parce que nous ne pouvons pas continuer à avoir une bancarisation qui ne dépasse pas 5% dans un pays. On ne peut pas continuer à avoir un pays où l'inclusion financière est complètement absente. Ce qui fait qu'en réalité, on ne donne pas d'opportunité à plus de 80% de notre population qui vit dans les milieux, qui vit dans les milieux ruraux. Et je crois que faire confiance, il faut aussi faire confiance en celui qui est censé garantir que rien ne se passe de négatif et en cas de problème, vous êtes protégé, en l'occurrence la Banque centrale. Et ici, j'insiste sur le fait que mettre en place un fonds de garantie des dépôts n'a absolument rien de sophistiqué. En 3 mois, ça peut être fait et ça donne des outils supplémentaires de gouvernance et de surveillance croisés entre les différentes institutions financières, mais également une supervision d'un autre niveau au niveau...
Oui, monsieur Alain.
C'est anormal.
D'accord. On va accueillir deux auditeurs, maître Gaston et Mitterrand de Mbandaka. Maître Gaston, bonjour. Quelle est votre question? Maître Gaston, bonjour. Il n'est plus là. Mitterrand de Mbandaka, bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de la radio Capi. Et merci de m'avoir associé dans cet échange, si vous soyez.
On vous écoute.
Oui, nous aussi, en Mbandaka, nous avions connu cette situation. Il y avait une coopération qui était venue au nom de MyGov de Rêve. MyGov de Rêve, c'est une coopération sous forme toujours d'épargne qui était venue, mais c'est une coopération qui a escroqué beaucoup de gens en Mbandaka. C'était quand vous épargnez l'argent, bien vous déposez l'argent aujourd'hui, on vous donne 1% de l'argent que vous déposez à la longueur de la semaine, à la fin du semaine. De la semaine, disons, on vous remet 7%, c'était ça. Et puis c'était vraiment bien au départ, tout le monde avait cru que c'est vraiment une très bonne chose. Et parce que nous aussi, nous avions posé ça comme une chose sérieuse, et parce que c'est une coopération qui travaillait au vu de tout le monde, et tout le monde le voyait, même le gouvernement aussi savait déjà le fonctionnement de ça. Mais tout à coup, les propriétaires et les responsables de cette activité se sont disparus de la nature. Ils ont escroqué les gens avec beaucoup d'argent, parmi lesquels moi aussi je suis victime, monsieur Jody. Mais la question que je voudrais poser à l'invité, c'est Alki Tengue qui est ici présent, c'est comment les clients ou bien les profanes pourraient savoir que telle coopération est-elle sérieuse ou bien quels sont les vrais critères que nous, en tant que population, que nous pouvons faire pour savoir que cette coopération est sérieuse. Merci beaucoup, Jody.
Bien, monsieur Alki Tengue.
MyGov de Rêve était une escroquerie bien montée qui a fonctionné même ici à Kinshasa. Au vu au sud de tout le monde, la Banque centrale l'a simplement dénoncé, mais j'ai envie de dire, l'État n'a pas agi à temps. On a connu ce problème avec Bindo à l'époque, mais en fait, c'est ce qu'on appelle la planche de Ponzi, et c'est de l'escroquerie pure et simple. Elle est arrivée ici, elle est arrivée dans beaucoup de pays européens, et elle est arrivée aux États-Unis avec le fameux Madoff. Mais c'est une escroquerie pure et simple, ça n'a absolument rien à voir avec une coopérative, et MyGov de Rêve n'avait absolument pas du tout l'autorisation de la Banque centrale.
Voilà, donc c'était une escroquerie pure et simple maintenant.
Oui, mais la légèreté est du côté de l'État. L'État a bien vu que ça allait arriver, et l'État devait stopper ça de manière nette. La Banque centrale s'est contentée de décrier l'existence de cette activité, de la nommer comme étant informelle et inacceptable, mais l'État n'a absolument rien fait. La police, les autorités n'ont absolument rien fait, jusqu'à ce que la catastrophe est arrivée. Et bien entendu, les délinquants ont disparu dans la nature. Encore une fois,
faiblesse de l'État. On n'est pas même pas en mesure de savoir de qui sa vie, où il était, où est-ce qu'il est pour l'instant. Comment on fait pour être en mesure de l'immobiliser pour que plus personne ne recommence la même chose?
Maintenant, quelles précautions prendre à Al-Kitenge pour ne pas tomber dans les panneaux, dans les filets de ces escrocs?
Mais écoutez, les églises sont des espaces de confiance avec des leaders d'opinion importants. À mon avis, nos églises devraient devenir des coopératives de crédit et d'épargne, mais moyennant une formation de base et une gouvernance qu'il faut. Nous avons tellement d'églises que ça devrait être une capacité pour nous de mobilisation de flux financiers capable de générer une véritable banque à capitaux congolais. Et je crois simplement que si nous nous basons sur cette réalité sociale...
Allô, monsieur Al.
Monsieur de qualité, mais on pourra avoir la capacité de, derrière tout ça, mettre en place des activités entrepreneuriales pour que nous soyons en mesure de travailler et de maîtriser notre économie.
Monsieur Al-Kitenge, analyste économique, merci et excellente journée.
Merci.
Bien, on va accueillir madame Evelyne de Kananga. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel. Bonjour à notre invité, à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute, madame.
Oui, Daniel. La thématique est d'une importance capitale vu que le chef de l'État est en train de promouvoir l'entrepreneuriat. La thématique a sa place. Néanmoins, c'est un secteur où l'État doit avoir un œil regardant dans tout ce que les coopérants vont faire. Imaginez-vous, mettre sur pied une coopérative n'est pas une mince affaire, Daniel. La mise sur pied d'une coopérative doit, n'est-ce pas, être l'apanage de la banque centrale. La banque doit avoir la main mise sur les activités de la coopérative. Il faut donc pour moi je vais directement dans des recommandations. C'est notre État qui doit mettre les principes de surveillance. Comment surveiller ceux qui entreprennent? Comment mettre des garde-fous pour qu'il n'y ait pas la fraude? Comment faire pour que les gens-là qui vont gérer la coopérative ne puissent pas fuir avec l'argent des Congolais? Et du point de vue crédit, celui qui vient solliciter le crédit auprès de la coopérative doit répondre à certains critères tels que avoir une résidence bien identifiée, être quelqu'un de connu, s'il a des activités, hein, au moins dans ce sens-là, on identifie la personne. On a la confiance en la personne, néanmoins on met des garde-fous dans ce que cette personne va faire avec l'argent qu'il vient solliciter auprès de la coopérative. Au besoin qu'il soit une personne qui a une résidence bien connue, il n'est pas locataire, mais il a sa parcelle. En cas de fuite, en cas de ceci, de cela, on peut mettre la main sur les biens qu'il possède pour pouvoir récupérer l'argent. Ça, c'est du côté coopératif. Néanmoins, du côté des clients, pour investir dans la coopérative, c'est l'État qui doit nous aider. L'État doit nous aider pour mettre sur pied le mécanisme de surveillance pour qu'il n'y ait pas de dérapage dans l'exercice des activités par les coopérants.
D'accord. Merci.
Notre État est impliqué par moment. Vous trouverez certaines autorités impliquées. On va avec la plainte auprès de ceux qui sont censés traiter la plainte. On vous dira, mais ces gens-là sont toujours comme ça. Bon, on va voir.
Et puis on laisse tomber.
Deux, trois jours après, on relâche. C'est là que ça décourage.
Merci, madame Evelyne. Professeur, merci beaucoup. Professeur Emmanuel Mukundi.
Je vous en prie. Je voudrais quand même reculer un tout petit peu avec Ali qui parlait de la CADECO qui est en situation de précarité. Oui. Cette institution, elle est en situation de précarité, mais moi, je la soutiens toujours. Je la soutiens et c'est là que l'État doit jouer son rôle.
il a donné une statistique où le taux de bancarisation est très faible, 5%. Et moi, je parle du taux d'inclusion financière qui est en deçà de 5%. Ce qui fait que la CADECO reste l'une des institutions financières qui appartient à l'État et qui est établie sur toute l'étendue de la République. Et donc, il est question de redynamiser ça. L'objectif principal de la CADECO, c'est collecter l'épargne du public, et particulièrement les agents et fonctionnaires de l'État. Si on peut redynamiser cette institution qui se retrouve partout dans tout le territoire, moi je crois que cette inclusion financière dont nous avons besoin peut être créée. Donc il faut que l'État joue son rôle et l'État soutienne ces entreprises publiques qui jouent le rôle dans différents secteurs. Et là j'ajoute, parce que c'est ça aujourd'hui le cheval de bataille pour moi dans la théorie, il faut quitter cette théorie de la répression financière pour la libéralisation financière, il faut quitter ça. Écarter l'État du système financier, c'est une mauvaise chose. Il faut que l'État soit dans cette histoire-là, l'État réglemente, l'État régule et l'État opère comme opérateur économique en créant des institutions et en soutenant des institutions comme la CADECO, les FPI et les autres. Ça, c'est par rapport à ce qu'a dit Ali, mais par rapport à ce qu'a dit Gaston de Mbandaka, il a posé la question comment découvrir. D'abord, moi, je vais rentrer dans la coopérative, parce que la leçon d'aujourd'hui, c'est la coopérative. Un autre jour, vous m'appellerez pour d'autres institutions, je vous en parlerai. Dans une coopérative, et je réponds en même temps à la question d'Evelyne, dans une coopérative ne peut bénéficier de services que le membre. C'est-à-dire, il faut être membre à part entière pour bénéficier de ces services. On ne peut pas venir dans une coopérative, quelqu'un vous dit, vous n'êtes pas membre, vous ne participez pas au capital, il vous dit non, venez déposer. Non, mais là, c'est une escroquerie. Déjà, un élément qui peut vous permettre de découvrir que c'est de l'escroquerie. On ne peut déposer que les membres. Aussi, vous ne pouvez pas, par un simple magie, dans une coopérative d'épargne de crédit, quelqu'un vous dit, venez bénéficier du crédit à tel taux. Non, c'est de l'escroquerie. Parce que ne peut bénéficier du crédit dans une coopérative d'épargne et de crédit que le membre. Voilà les éléments qui peuvent montrer que on ne peut être dans une coopérative, on ne peut bénéficier des services des coopératives que lorsque on est membre. Si on n'est pas membre, on ne peut pas le faire. Et de deux, il y a question des églises. Oui, mais c'est bien les églises. J'en suis pas contre. Notre ami de Kikwit nous a parlé d'une église qui les a escroqués. Mais ça aussi, c'est l'État qui doit organiser parce qu'il y a une loi. Tous ceux qui disent que l'État n'organise pas, l'État ne fait pas ceci, il y a une loi. La loi, elle est là, malheureusement, l'autorité de supervision, ici, je cite la Banque centrale, parce que je ne veux pas aller des quatre voies,
oui.
C'est la Banque centrale qui est l'autorité de supervision, doit appliquer la loi. Je vous ai dit, elle existe depuis 2002. Il y a même des sanctions. Je vous donne quelques sanctions. Je peux vous donner quelques sanctions, par exemple, si un administrateur, un membre d'une commission ou le gérant d'une coopérative commet une faute, il y a des sanctions qui sont prévues. Vous avez l'avertissement, vous avez le blâme, vous avez la suspension. Donc la Banque centrale peut même suspendre les gérants de la coopérative. Donc la Banque centrale peut même retirer l'agrément. C'est-à-dire, lorsqu'elle constate que cette coopérative ne fonctionne pas bien, elle retire l'agrément, elle retire même le fonds qui ont été placés afin d'organiser la restitution aux déposants.
Oui, professeur, Madame Evelyne a proposé même que la résidence du gérant soit bien connue.
Oui, mais évidemment, c'est bien de l'avoir proposé, je l'encourage, mais c'est dans la loi. Pour être gérant d'une institution, d'une coopérative d'épargne et de crédit, comme dit la loi, le gérant doit être validé. Il doit avoir les quitus de la Banque centrale. C'est-à-dire que c'est la Banque centrale qui dit oui, vous proposez trois gérants, quatre gérants. La Banque centrale dit celui-là non, mais on prend l'autre. Alors la Banque centrale ne peut pas les prendre à Beauvau. La Banque centrale doit prendre la personne qu'elle connaît. Et donc s'il y a des gérants voleurs, la Banque centrale doit savoir comment ces gérants volent. Et aussi il y a un mécanisme. La Banque centrale a les mécanismes de contrôle sur pied et les mécanismes de contrôle sur pièce. Ça voudrait dire quoi? Toutes les institutions financières, les établissements de crédit dans le cadre de la République démocratique du Congo ont l'obligation de déposer leurs pièces financières, leurs documents comptables et financiers à la Banque centrale chaque semaine, chaque trimestre, chaque année. Donc la Banque centrale doit contrôler, c'est ça ce qu'on appelle les contrôles sur pièces, pour savoir si réellement ces institutions-là fonctionnent et ces institutions-là sont plus créditrices que débitrices. De deux, ces contrôles sur pièces. la Banque centrale a ces pouvoirs-là d'envoyer ses superviseurs. Parce qu'il y a toute une direction à la Banque centrale qui s'appelle direction de supervision. Son rôle, c'est celui de descendre sur pied, en Mbandaka, à Kananga, à Bounia, partout là où les gens crient, pour pouvoir vérifier si réellement telle institution à qui j'ai donné l'agrément fonctionne dans les bonnes conditions.
Professeur, un instant, on va accueillir Rigen de Bandundouville. Bonjour Rigen.
Bonjour Monsieur Jody.
Quelle est votre question?
Merci beaucoup de m'avoir participé dans l'émission.
Oui.
Et je salue notre invité. Et par rapport à ce que vous venez de l'inviter en train de parler, Monsieur Jody, j'aimerais juste contribuer. Dans notre province de Kouilouissi, à Bandundouville précisément, il y avait deux coopératives qui existaient avant. La première était la coopérative catholique et puis la seconde était de nos frères Branham. Mais quand on parle, il y a des escroqueries, moi je trouve que c'est un problème de l'information. Parce que ceux qui viennent s'installer ici dans les villes ne sont pas tellement des coopératives, ce sont des établissements, soit des institutions de crédit. Maintenant, le vrai problème en est que la population n'est pas tellement vraiment informée et de faire la différence qui existe entre une coopérative avec les institutions de crédit. Et par rapport à ça aussi, j'aimerais dire qu'il y a vraiment une faiblesse sur la loi et la banque ne fait pas vraiment tout à fait leur travail. Parce que la banque devrait contrôler toutes ces institutions-là. La banque devrait être en mesure de connaître leur capital initial et leur capital qu'ils travaillent avec. Les capitales-là ne pouvaient jamais être gérés par les comptes de l'individu. S'il y a trop de... Il y a trop de détournements comme ça. Moi, j'aimerais dire que c'est un problème c'est un problème d'abord des sentiments. Et il y a aussi un problème que nous disons ici. Il y a un problème des partis, il y a un problème de familiarisation qui fait tout ça.
D'accord.
Mais j'aimerais juste poser un peu une petite
rapidement.
Question. Et j'aimerais justement poser une petite préoccupation à notre invité.
Mmh.
Et de nous dire la différence qui existe entre l'institution des crédits et les établissements des crédits. Donc, et puis, quels sont les capitales que devrait avoir une institution des crédits et puis un établissement des crédits.
Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Jody.
Professeur Emmanuel Mukundi.
Oui, merci beaucoup. Alors, je terminais par, d'ailleurs, mon ami Regan m'a aidé. J'ai terminé par les deux types de contrôles. J'ai parlé des contrôles sur pièces et les contrôles sur pied. Ce qui fait que la Banque centrale, la loi est là, est tout à fait claire. Les parlementaires ont déposé la loi depuis 2002. C'est à la Banque centrale de la vulgariser, comme l'a dit notre ami Rigen. Parce que pour savoir la différence entre toutes ces institutions-là, vous prenez la loi, je crois que c'est à son article premier. On vous donne la différence et les articles qui suivent, on vous donne les fonctionnements de chaque catégorie d'établissement de crédit. Et la Banque centrale devait faire ça, c'est son rôle, des vulgarisations, c'est son rôle. Il n'appartient pas aux députés d'aller vulgariser les textes. Non, c'est la Banque centrale qui est l'exécutif, qui a le pouvoir de contrôle, de supervision et de régulation de pouvoir les faire. Alors, il parle de manque d'informations. Effectivement, là aussi, c'est toujours la Banque centrale qui doit donner l'information. Cette information doit commencer par la différence entre les différents établissements de crédit tels que libellés dans le texte légal et aussi le fonctionnement de chaque institution. La Banque centrale ne les fait pas et comme nous sommes convenus avec Ali, il faut que l'État joue son rôle. Ce qui manque, c'est le déficit de l'État dans notre société. À partir du moment où vous êtes dans des coins où chacun se comporte en rombo et que chacun est... capable de faire ce qu'il peut, oui, sans être touché, sans être contrôlé, et de telles escroqueries arriveront. Alors, sa dernière question, quelle est la différence entre une institution de crédit et un établissement de crédit?
Professeur Emmanuel, je pense qu'on répondra prochainement à cette question comme on n'a plus beaucoup de temps. On est arrivé à la fin de cette émission. Nous vous disons merci, professeur Emmanuel Mukundi. Je rappelle que vous avez enseigné professeur d'économie, député élu. Et des news, merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous retrouvera prochainement pour un autre numéro d'Okapi Service. Merci et à la prochaine. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.